Philippe, théologie mystique, le sacerdoce du Christ, le 13 mars 87, Rimini.
Nous allons continuer toujours cette grande question que nous nous posons, qui est importante. Essayez de comprendre à travers l'évangile de Saint Jean. Le grand mystère du sacerdoce de Jésus, médiation sacerdotale, au fond, essayer à travers tous les gestes de la vie du Christ, de la vie apostolique de Jésus, ce que la vie cachée ne nous dit rien sur le mystère du sacerdoce du Christ. Bon, nous savons dans la foi l'enfant Jésus dans la crèche est prêtre. Mais il n'agit pas en tant que prêtre. Il agit comme un enfant. De façon visible, intérieurement, il agit en fils bien-aimé du Père. Il contemple et il mérite notre salut. Donc, il est prêtre, mais c'est caché, c'est invisible. Ce n'est qu'à partir de sa vie apostolique que Jésus, d'une façon visible, agit, d'une façon comme le médiateur, comme le sauveur. Et donc, c'est à partir de son activité apostolique que nous devons découvrir, dans la mesure du possible, le mystère du sacerdoce du Christ. Alors, vous voyez bien, je reviens toujours sur ces deux démarches qu'on peut faire. La démarche que fait saint Thomas à partir du mystère de l'union du Verbe avec la chair humaine. Donc, à partir du mystère de l'union analyse théologique, déduire le mystère de la grâce et de la plénitude de grâce. Je peux, en référence avec le texte de l'Écriture, voir donc l'Écriture, parce que l'Écriture me parle bien de la plénitude de grâce du Christ. De voir l'union entre les deux. Et ça, saint Thomas fait ça dans son traité sur le Verbe de Dieu. Voir comment le Christ est tête, donc le lien entre la plénitude de grâce et Jésus tête. L'Écriture me parle du sacerdoce du Christ et de la médiation sacerdotale du Christ. Vu à ce moment-là de mettre en pleine lumière le mystère du sacerdoce médiateur. Autrement dit, c'est là un des problèmes que je crois important à saisir au plan théologique. Nous voyons que dans l'Ancienne Alliance, les médiateurs sont multiples, ce que je vous avais montré la dernière fois, et comment tout se ramène au sacerdoce du Christ. Pour moi, c'est la grande question qu'on doit se poser. Bon, nous avions déjà précisé ça la dernière fois. Qu'est-ce que nous faisons ici ? Nous essayons à partir des activités du Christ apôtre, donc les activités apostoliques du Christ, à travers toutes ces activités, comprendre la source cachée du sacerdoce. Chacune de ces activités, au moins doivent nous permettre il y a deux grands aspects. Tout ce qui prépare la croix et le mystère de la croix. Tout ce qui prépare nous est important parce que ça nous dispose. Et Saint Augustin nous dit, Saint Augustin, c'est entre la théologie mystique et la théologie scientifique, il a cet avantage. Saint Augustin nous dit, Jésus est fondateur de l'Église. selon une modalité très très étonnante. Et ça, ça fait partie du mystère du sacerdoce du Christ. Et je crois qu'il faut essayer de saisir cela, parce que c'est pas dit explicitement, mais là, on est en face d'un moment qui est très important. Jean souligne la présence de Judas Iscariote. Autrement dit, Jean veut nous faire comprendre que ce n'était pas la place de Judas. Et il nous fait tout de suite comprendre. Alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer. Si le démon a mis dans le cœur de Judas, et Judas l'a accepté, le dessein de livrer, Judas ne fait plus partie des amis. On ne peut pas trahir et être ami. La trahison tue l'ami. Et donc, Judas usurpe une place. Il a une attitude mensongère. Il est présent avec les autres. Il fait comme les autres. Il fait tout comme les autres. Et cependant, son cœur est loin. Et non seulement son cœur est loin, mais son cœur a déjà décidé la trahison. Alors, c'est cela que Jean souligne, ça. Il souligne cette attitude particulière de Judas qui, pour Jésus, qui, comme Dieu, sonde les reins et les cœurs, et qui, dans sa science infuse, connaît aussi l'intention de Judas. Pour Jésus, c'est terrible. La présence du retrait, du traître au moment du testament, au moment où il va instituer ce sacrement d'amour en mémorial. Normalement, il n'aurait pas dû être présent. Je crois qu'il faut comprendre la patience de Jésus. La patience du cœur sacerdotal du Christ. La patience consiste à supporter auprès de nous celui qui nous trahit. C'est ce qu'il y a de plus difficile à supporter. Quand on est en face d'un traître, qu'on le sait, on n'a qu'une seule envie, c'est de l'éloigner le plus possible. Il n'a plus le droit au secret. Puisque dans son cœur, il a rejeté. Il n'a plus de droit au secret. Alors l'Eucharistie, c'est le grand secret. C'est le grand secret de toute la vie apostolique de Jésus. C'est le grand secret de Jésus législateur. Vous voyez, c'est la nouvelle loi. Et une loi qui est secrète. Parce qu'elle n'est plus au niveau moral. Elle est au niveau de l'amour divin. Et c'est un secret. Donné à tous. Mais donné à chacun comme un secret d'amour. Jésus, sachant que le Père lui a tout remis dans les mains et qu'il est venu de Dieu et qu'il va vers Dieu, se lève de table. On voit très bien l'initiative du Christ. Si je mets ceci en parallèle avec Saint Luc, je peux dire que c'est après avoir vécu d'une façon liturgique, la Pâque ancienne. Il l'a vécu comme le dernier repas d'amitié avec les apôtres. Et comme Jésus veut que cette Pâque ancienne soit transformée par sa Pâque à lui, et par le sacrement de l'Eucharistie, entre ces deux Pâques, pour montrer à la fois la distance qu'il y a entre les deux, et en Je crois que nous pouvons saisir la double attention de Jésus dans ce geste. D'une part, le bon berger qui, dans un dernier geste d'amour, veut être seul pendant quelques instants avec Judas. Judas fuit Jésus, ça c'est sûr. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais Judas fuit Jésus. Du reste, on comprend bien porter dans son cœur la trahison et être auprès de Jésus. C'est déjà pas commode de porter la trahison quand on est auprès d'un ami qui n'est qu'un homme, mais quand cet ami est un surhomme et qu'il est Dieu. Alors à ce moment-là, ça doit être quelque chose d'impossible.
Percevoir, parce que le premier litige entre les apôtres.
l'intérieur de l'église. Il faut faire attention. Toute autorité vient de Dieu. Et quand il s'agit de l'autorité des sacrements, ça vient du Christ. C'est une autorité chrétienne, au sens le plus fort. Jésus fait donc cela à la fois pour montrer ce qu'il y a de nouveau et en même temps maintenir la grandeur de la Pâque ancienne. S'il avait voulu ne pas donner le signe de la grandeur de la Pâque ancienne, il n'aurait pas célébré en dernier repas avec les apôtres. Donc, il montre bien cela. Et en même temps, ce quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau se comprend parce qu'on est en présence d'un sacerdoce qui fait que celui qui est prêtre est en même temps victime. Sacerdoce d'amour. Et le sacerdoce d'amour nous fait comprendre que l'autorité du prêtre est un service. Le prêtre se donne lui-même dans ce service. Il est tout entier au service de ceux qui sont proches de lui. Et ce service, c'est le service le plus humble qui soit, le plus pauvre qui soit, le service de l'esclave, lavement des pieds. Alors, est-ce qu'il y a un lien, vous voyez, le serpent qui atteint le talon, les pieds, il y a tout ça qui est impliqué dedans, parce que ce n'est pas rien, la dernière purification. Vous voyez, même si on est pur, on ne l'est jamais totalement. Puisque dans ce combat de la, du dragon et de la femme, elle lui écrase la tête et il l'atteint au talon. Ça a une signification, cela. C'est que tant qu'on est sur la terre, on n'est jamais totalement pur. On a toujours besoin du sacrement de pénitence. On a toujours besoin d'une purification surabondante. La parole ne suffit pas. Vous voyez, la pureté de l'intelligence, la pureté de la recherche de la vérité ne suffit pas. Il faut une pureté surabondante de miséricorde et d'amour. Donné par le sacrement, par un signe tangible. Je crois qu'on peut dire que chaque fois que nous recevons le sacrement de pénitence, Jésus nous lave les pieds. On peut dire ça. On reçoit le sacrement de pénitence en vue de l'Eucharistie. Et donc on peut dire que chaque fois, c'est Jésus qui nous attend et qui est là pour nous recevoir de cette manière-là. Permettre que nous recevions sa miséricorde jusqu'au bout. C'est dans la lumière du sacrement de Pente, ce lavement des pieds, que nous devons comprendre alors l'institution de l'Eucharistie. Là, je vous renvoie à Saint Luc, chapitre 22. Tout ce que Jean a communiqué à Luc, il ne le reprend pas, donc on comprend très bien. Et l'institution de l'Eucharistie nous fait comprendre ce geste de surabondance d'amour, où la toute-puissance du Père est au service de la communication de l'amour. Et c'est peut-être là où nous touchons ce qu'il y a de tout à fait particulier dans ce pouvoir sacerdotal. La toute-puissance du Père sous la forme du pain et du vin. Alors ça, c'est très important de saisir ça, parce que ça nous fait saisir comment le sacerdoce du Christ va lutter directement contre ce que la faute avait mis en nous comme désordre. Si l'image du Christ en nous, c'est que le dominium est au service de l'intelligence et au service de l'amour, les trois grandes dimensions de l'image de Dieu en nous. Le péché a fait que l'amour et l'intelligence soient au service du dominium. C'est le grand désordre. C'est le grand désordre de l'humanité d'aujourd'hui qui est éclatant. C'est que les hommes ne cherchent plus que la domination et mettent toute leur intelligence et toute leur capacité d'amour au service de la domination. Alors on comprend que le sacrement de l'amour qui doit exprimer pour nous ce qu'il y a de plus secret dans le cœur du Christ et dans la sagesse du Père fait que ce sacrement d'amour fait juste l'inverse. La toute-puissance est au service de l'amour. Et ceci de la manière invisible, mais c'est la toute puissance de Dieu qui est au service de l'amour. Et c'est là où on peut dire que Yahvé, Dieu des armées, se désarme par miséricorde pour nous dans le sacrement de l'Eucharistie. Puisque Dieu se donne sous la forme du pain et du vin, Dieu garde toute son autorité, Jésus garde toute son autorité de Fils bien-aimé, et il a toute l'autorité du Père, et il a l'autorité de celui qui est capable de réaliser ce mystère de la transsubstantiation. Mais tout son pouvoir de créateur est ordonné à la communication la plus forte qui soit de l'amour, puisqu'il se donne sous la forme du pain, sous la forme du vin. Ça ne peut pas aller plus loin dans l'ordre du don, puisque le pain et le vin sont l'aliment et la boisson qui nous sont entièrement donnés, dont on use de la manière la plus forte qui soit, d'une manière substantielle. L'aliment est totalement transformé en celui qui s'en nourrit. Et Jésus nous fait comprendre comment, se donnant de cette manière, il veut nous transformer totalement en lui. Donc il y a là le grand secret de toute notre vie chrétienne. Le grand secret de toute notre vie chrétienne est donné dans l'Eucharistie. Et il est donné, vous voyez, enveloppé du lavement des pieds. Donc il est donné à travers ce point de vue de la pauvreté et de l'humilité pour que nous puissions comprendre et vivre de ce mystère. Après l'institution de l'Eucharistie qui normalement aurait dû s'achever dans le grand silence de l'action de grâce, Jésus nous dit lui-même, celui qui boit et mange ma saine, ma chair, vit par moi et pour moi, le diable, comme lui-même vit par le Père et pour le Père. Au chapitre 6, à la fin du chapitre 6, Jésus nous le dit, c'est le fruit propre du sacrement de l'Eucharistie. Jésus est tout entier tourné vers le Père parce qu'il vient du Père et qu'il retourne vers le Père. demande qui est celui dont il parle. Jésus vient de dire, en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. À table, tout contre le Saint de Jésus, se trouvait un de ses disciples, celui que Jésus préférait. Simon Pierre lui fait donc signe et lui dit, demande qui est celui dont il parle. Celui-ci se renversa à même la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Et Jésus reçoit comme celui